Beaumarchais, un aventurier de la liberté. Par Éric Orsenna. Aujourd'hui, un guerluchonneur qui a su aimer.
Au curieux des relations humaines, conseillons deux ouvrages informés et savoureux. D'abord celui de Charles Pinault Duclos, « Mémoire pour servir à l'histoire des mœurs du XVIIIe siècle », et un trésor, le journal des inspecteurs de M. de Sartine. Ce Sartine, avant de se purifier la tête en devenant un légendaire ministre de la Marine, avait exercé la charge de lieutenant criminel du Châtelet, puis de lieutenant général de police. C'est à ce titre qu'il rémunérait une foule d'inspecteurs, le tenant informé du moindre mouvement d'alcôve dans la ville de Paris et ses proches alentours. Après lecture et duffichage des personnalités concernées, ces rapports étaient transmis au roi Louis XV, lequel, dit-on, s'en délectait. Preuve, s'il en était besoin, que le voyeurisme passe souvent par la lecture, et d'ailleurs également par l'oreille. On se rappelle avoir appris par l'affaire des écoutes que François Mitterrand prenait vif plaisir à tout apprendre de la vie très privée de certaines actrices pour lesquelles il semblerait qu'il ait eu comme un penchant. Revenons au siècle qui nous importe présentement. Voici un extrait d'un de ces rapports concernant une demoiselle Lacroix, figurante attitrée dans les ballets de l'opéra. Je cite. Le prince de Belozinski est parti depuis quelques jours pour l'Angleterre. Malgré toutes les promesses qu'il avait faites à la princesse son épouse de ne plus voir la demoiselle Lacroix, il lui rendait encore souvent des visites. Mais je crois qu'à son retour, il ne la verra plus, parce qu'il a découvert que M. de Beaumarchais, jeune homme fort aimable, fils de M. Caron, horloger du roi, la guerluchonnait souvent, rejoignant dans ses pratiques M. de Bussy, mousquetaire, depuis qu'il a quitté Mademoiselle La Foreste, également du corps de ballet. Fin de citation. Pour parfaire votre information, sachez que le guerluchon est officiellement l'amant d'une femme mariée, mais que le sens du mot s'est étendu à toute activité intime, la plupart du temps rémunérée. Vous découvrirez également que perdure dans certaines régions de France, à commencer par le Berry, le culte d'un saint guerluchon dont les statues doivent être soit protégées, soit constamment renouvelées. En effet, ce saint patron de la fertilité est toujours représenté pourvu d'un attribut de taille prouvant sa capacité. Et figurez-vous que certaines femmes en mal d'enfant viennent nuitamment racler le bois et même la pierre du dit attribut pour s'en faire moult décoctions dont elles espèrent grand fruit. Ne comptez pas sur moi pour détailler ces phrases. Je me dois de respecter tant sa pudeur que la tranquillité de ses descendants. Mais ma passion de la vérité m'oblige à dire que le sieur Caron fils, nouvellement veuf et pas encore Beaumarchais, nonobstant ses innombrables autres occupations, profitait de sa bonne mine pour ne cesser de guerluchonner ici et là, et pas seulement dans le corps de ballet.
Thank you.
En toute espèce de bien, posséder est peu de choses, c'est jouir qui rend heureux. Le Barbier de Séville, acte 4, scène 1. Beaumarchais a trop aimé son enfance pour ne pas tout entreprendre pour la retrouver. C'est dans ce but touchant qu'il achète, 26 rue de Condé à Paris, une charmante demeure, siège aujourd'hui des éditions du Mercure de France. Au rez-de-chaussée, nous trouvons les cuisines et la salle à manger, au premier, les appartements du maître de maison, et les deux étages supérieurs sont réservés à ses deux sœurs non mariées et à son père. Le bonheur ancien revient comme s'il avait attendu juste derrière la porte. Rire, musique, jeux, dîner, intrigue, c'est sans doute, au 26 de la rue de Condé, l'atmosphère la plus joyeuse de Paris. Celui qui fait le plus plaisir à voir est le père, Pierre-André Caron. Il avait traversé une passe difficile en perdant à la fois sa femme qu'il chérissait et l'horlogerie, son métier qu'il aimait et auquel il avait tant donné. Et il renaît, ragaillardi par cette ambiance de fête perpétuelle. Et figurez-vous que rue de Condé, on reçoit de plus en plus souvent la visite d'une certaine veuve, Jeanne-Henri née Guichon. Le fils est tout joyeux pour son papa. Maurice Levert a retrouvé l'une de ses lettres merveilleuses adressées par Beaumarchais à son père. Je le cite. « Je ne suis point étonné de votre attachement pour cette dame. C'est la gaieté la plus honnête et un des meilleurs cœurs que je connaisse. Certes, elle a été mariée, mais je mettrai ma main au feu qu'elle n'a pas encore bien connu ni joui de son cœur. Si j'étais de vous, je sais bien comment je m'y prendrais. » Alors il faut croire que le père sait également comment s'y prendre, car bientôt sont célébrées les noces de ces deux tourtereaux de 67 et 62 ans. Vive la vie qui n'a pas d'âge. Tonton, c'est-à-dire Jeanne-Marguerite et Julie, l'autre sœur, ne sont pas en reste d'amusement. Une ronde de prétendants les entoure, se laisser parfois entraîner, séduire un moment, pourquoi pas, mais pour quelle raison s'arrêter à l'un plutôt qu'à l'autre? Quand le ciel vous a fait cadeau d'un tel frère, quelle folie peut vous pousser à vous affubler d'un mari? Finalement, le plus sage de la bande est Pierre-Augustin. Après avoir intensément guerluchonné les demoiselles du corps de ballet, il songe à s'établir. Et la personne envisagée est une ravissante, originaire de Saint-Domingue, alors colonie française. Mademoiselle Pauline Le Breton, outre sa joliesse, sa gentillesse et ses vrais talents de musicienne, présente l'incomparable avantage des filles uniques. C'est la seule héritière de ses parents. Et on parle d'une gigantesque plantation de canne à sucre. Mais il se murmure aussi que la propriété est grevée d'hypothèques. Vous comprendrez qu'avant de s'engager, le fiancé doive se faire une idée claire du bien de sa promise. Comment voulez-vous goûter l'amour s'il ne s'accompagne pas du confort nécessaire? Pierre-Augustin envoie donc un comptable dans l'île des Caraïbes et en attendant son retour et les résultats de l'enquête, il abandonne la pauvre Pauline car Madrid le réclame.
Thank you.
Depuis longtemps déjà, Marie-Joseph et Lisette lui manquaient. Peut-être pour échapper à l'emprise familiale, elles avaient décidé, 8 ans plus tôt, de partir de l'autre côté des Pyrénées pour ouvrir dans la capitale espagnole un magasin de frivolité, autrement dit une boutique de mode où étaient présentées les dernières élégances de Paris. Si Marie-Joseph avait trouvé bon mari en la personne d'un architecte de talent, Louis Gilbert, Lisette restait toujours fille malgré son âge, déjà 32 ans. Et puis s'était présenté un certain José Clavijo y Fajardo. Outre ses activités de directeur adjoint du Muséum d'histoire naturelle, le joli cœur écrivait sur les domaines les plus divers, par exemple les relations conflictuelles entre les jésuites et les rois successifs. Il était connu dans Madrid et plutôt respecté. Lisette et José se fréquentent, se plaisent, se fiancent. La date des épousailles est fixée. On imagine la joie des deux sœurs. On les voit farfouiller dans leur magasin. Quelle robe trouver pour la noce? L'occasion est trop belle d'éblouir ces rustres de madrilènes. Et puis soudain, catastrophe. Le beau José rompt. Et pour le plus injurieux des motifs, la manière de vivre de ces dames lui semble diamétralement opposée à l'honneur et à la rationalité. Diametralmente opuesta al honor y a la racionalidad. Stupeur. Lisette souffre le martyre. Marie-Joseph s'étrangle de colère. Une semaine plus tard, un homme frappe à la porte des frivolités. C'est le José, tout penaud. Il s'excuse, Lisette fond et rouvre ses bras. Mais quelque temps plus tard, nouvelle dérobade du promis, puis nouvelle contrition. Cette valse hésitation dévaste la pauvre Lisette qui tombe gravement malade. C'est alors que Marie-Joseph appelle à l'aide. À peine sa lettre lue, Beaumarchais quitte tout, Pauline, ses affaires et Versailles, pour sauter dans une diligence. Est-ce sa faute si, tout le long du chemin, de gentes dames lui sourient? Une escale coquine est avérée à Tours. D'autres sont probables. Petit pousset d'un autre genre, Beaumarchais essaime son parcours de cœur brisé. Comment et pourquoi aller contre sa nature? Vous savez bien qu'on ne change pas les rayures du zèbre. Bordeaux, Bayonne. Après 5 bonnes semaines de route, Beaumarchais arrive enfin à Madrid. Les deux sœurs sont bouleversées. Mais quel frère nous avons! Quelle merveille de frère! À courir ainsi, alors qu'on le sait, tellement occupé à Paris. Clavijo est illico convoqué et accepte de reconnaître ses torts. On le cite. « J'ai ouvertement outragé cette vertueuse demoiselle à laquelle je demande pardon par cet écrit fait librement et de ma pleine volonté. » Fin de citation. Mais peut-on forcer un homme à épouser une femme dont il ne veut pas vraiment? L'argument du libre arbitre n'est pas de ceux qui laissent insensible Beaumarchais, même s'il s'agit de sa sœur. D'ailleurs, ce don José est sympathique et doté, semble-t-il, d'un réseau de relations qui pourrait être utile. Pourquoi ne pas s'en faire un ami? Il suffit d'un dîner dans l'un de ces restaurants chaleureux qui jouxtent la Puerta del Sol. Quant à Lisette, eh bien, nous lui trouverons un autre mari. Ainsi s'achève, en 2 temps 3 mouvements, ce qu'on a appelé l'affaire Clavijo. Bien plus tard, un épilogue heureux viendra conclure cette noce ratée. Devenu directeur du Théâtre Royal de Madrid, Clavijo accueillera la pièce de son ex-futur beau-frère, et cette pièce, c'est le mariage de Figaro. Telle est la première version du voyage à Madrid. Salut admiratif à ce frère, modèle de fidélité, de dévouement, de générosité, de désintéressement, de réactivité, mais une autre interprétation est possible.
Thank you.
De retour à Paris, Beaumarchais apprend que les nouvelles de Saint-Domingue n'annoncent rien de bon. Une plantation dont la propriété est incertaine, d'inextricables conflits familiaux, de cauchemars probables comme tout ce qui vient d'une indivision, une justice locale gangrenée par le pire des cocktails, la corruption et l'indolence. Si le charme de Pauline, la belle créole, demeure, la qualité et la quantité de son bien semblent de moins en moins assurées. Dans ces conditions, la vie étant ce qu'elle est, coûteuse, est-il bien raisonnable de s'unir pour la vie avec une telle personne? Poser la question, c'est y répondre. Reste à rompre. Les goujats fuient ou font silence. Les courageux affrontent le vif déplaisir d'un dernier entretien. Très cher, il faut qu'on parle. Les filous trouvent un prétexte. Le prétexte est le sauveur de celui qui n'aime plus. D'après certaines rumeurs, Pauline recevrait trop souvent un certain chevalier de Séguiran, oui, celui-là même qui, peu de mois auparavant, poursuivait Julie de ses assiduités. Beaumarchais ne cherche pas plus loin. Cette double perfidie est matière parfaite à colère. La caribéenne a le sang chaud, le temps monte, des noms d'oiseaux s'échangent, l'irréparable est atteint, bon vent, belle mer, chacun reprend sa liberté. Tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes si le filou était délicat. Or, c'est le pragmatisme qui, souvent chez lui, tient lieu d'élégance. Notre Beaumarchais a le culot de présenter les frais engagés par lui pour éclaircir la situation financière de la jeune femme à Saint-Domingue. Démarche aussi vulgaire que vaine. Pauline, à condition même qu'elle en eût la volonté, n'avait pas les moyens de rembourser. À bien y réfléchir, cette impécuniosité apportait de l'eau au moulin de cette rupture. La preuve que cette union n'aurait jamais apporté au mari la paix financière qu'il est en droit d'attendre. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, Beaumarchais, dans le même mouvement, trouve à vendre sa charge de secrétaire du roi et achète un office plus prenant, mais beaucoup plus rémunérateur. Voici qu'il devient lieutenant général des chasses aux bailliages et capitaineries de la Varenne du Louvre. La chasse, plaisir du roi, était interdite à tout autre. Le lieutenant général avait la responsabilité de faire respecter ce droit. Sa Varenne du Louvre s'étendait autour de Paris et comprenait rien moins que les forêts de Fontainebleau, de Rambouillet, de Saint-Germain et de Compiègne. Pour un revenu annuel très confortable, Beaumarchais devient magistrat. Et magistrat, il demeurera jusqu'en août 1789, date à laquelle la Révolution s'empressera de supprimer ses tribunaux iniques. Emploi incongru s'il en fut pour notre personnage. Pouvez-vous imaginer qu'un mardi sur deux, 15 années durant, notre ami se vêtirait solennellement pour aller délibérer dans une vaste salle du Louvre et condamner à de lourdes peines, parfois les galères, de pauvres bougres souvent tenaillés par la faim. Lui, Pierre-Augustin, l'amoureux de la liberté, la logique du en même temps, qui comporte bien des avantages, suppose une capacité particulière de l'estomac, celle d'avaler sans malaise les pires des contradictions. Le cas est moins fréquent dans la réalité que dans les rêves, mais il arrive, oui, il peut arriver qu'une belle lectrice sonne un beau jour à la porte d'un écrivain, même débutant, et veuille, de toutes les manières possibles, lui témoigner son admiration. Et d'ailleurs, bien plus qu'une soi-disant vénération de l'art en général et de la littérature en particulier, quelle meilleure raison d'écrire que l'espoir fou, justement, qu'un beau jour l'amour, attiré par vos pauvres lignes, sonne à votre porte. Si vous ne me croyez pas, lisez les chroniques de l'année 1774. Noël approche, Beaumarchais reçoit d'un ami la bonne nouvelle qu'une très jolie jeune dame souhaiterait le rencontrer pour, dit-il, qu'il lui prête sa harpe. L'amour se nourrit de prétextes, comme nous savons, mais avouez que celui-ci n'a rien d'habituel et nourrirait la folie interprétative des psychanalystes si nous leur en laissions le loisir au lieu de faire galoper notre histoire. Beaumarchais répond que, par principe, il ne prête jamais sa harpe. Mais, dit-il, si cette personne veut venir, je l'entendrai et elle pourra m'entendre. Ils vont s'entendre tout le reste de leur vie. L'admiratrice a 22 ans. Elle s'appelle Marie-Thérèse Amélie de Villers-Molaz, un nom qui fleure bon la Suisse, d'où vient sa famille. Elle porte la coiffure à la mode, ce panache en plumes baptisé Kezako. Ses yeux sont grands et bleus, sa carnation pâle, sa conversation enjouée, son esprit libre, sa culture aussi manifeste que discrète. Chère Marie-Thérèse, donnez-moi une seule vraie raison de nous quitter ce soir. N'en trouvant pas, la Suissesse s'installa, sans autre condition que celle de ne jamais s'ennuyer. Une promesse que Beaumarchais pouvait bien plus facilement tenir que celle de lui rester fidèle. Un jour, après 12 années de vie commune, ils décidèrent de se marier. Un autre jour, une fille leur vint. Hurlez, braves gens, notre auteur appelait son amour sa ménagère. Prenez connaissance des merveilles que sont ses lettres, et vous verrez qu'elle ne savait pas manier que des casseroles. Je la cite, Marie-Thérèse. J'ai moins besoin qu'une autre de puiser des consolations et de rechercher de l'appui hors de moi. La nature m'a donné une force, un courage, une gaieté de caractère et une sorte de philosophie routinière et d'instinct qui suffisent à tous mes besoins et me trouvent préparé à tous les événements qui gâtent le présent et l'avenir. En ce qui touche les espérances pour l'autre vie, j'avoue que je ne m'en occupe point du tout, je roule dans mon tourbillon et je ne me sens ni crainte ni désir qu'il s'arrête. Mais qui écrit ? C'est Marie-Thérèse ou c'est Pierre-Augustin ? Alors permettez à l'écrivain d'aujourd'hui de jalouser l'écrivain d'autrefois. Pourquoi, mais pourquoi, celles qui de temps à autre se présentent à votre porte, pourquoi ont-elles perdu le goût de la harpe et ce talent d'épistolière ? A-t-elle ce bras ferme et rondelet, ces jolis doigts pleins de grâce et d'espièglerie ? Ainsi l'amour, l'amour n'est que le roman du cœur, c'est le plaisir qui en est l'histoire. Il m'amène à tes genoux. Mariage Le Figaro, acte 5, scène 7. La dernière maîtresse est souvent la plus douloureuse. Partant celle qui donne la certitude au vieil amant de n'avoir jamais si fort aimé. 1000 exemples nous entourent de ces passions ultimes, et nombre d'écrivains, en ayant été victimes, ont raconté leurs tourments. Qui semblait plus sage et plus rebelle au débordement que Paul Valéry, le plus tenu des hommes, bon mari, père de 3 enfants, poète officiel de la pure intelligence, ne la professe-t-il pas aux grands-mères chaque mardi, au Collège de France. Et puis, voici que surgit Jeanne Voilier, une avocate de 34 ans. Paul le Sage perd la raison, il grimpe au ciel dans le même temps qu'il sombre, il souffre, il bétifie, Jeanne le rend chèvre. Mais ne croyez pas que les libertins, coutumiers du vertige, soient protégés de tels cataclysmes. Compagnon 12 ans durant de Marie-Thérèse de Villers-Molaz avant de l'épouser en 1786, Beaumarchais, infidèle intrinsèque, perpétuel amoureux par bouffée, pensait ne plus rien devoir attendre ni craindre en matière d'émoi. Amélie Houret, comtesse de la Morinaie, débarque dans sa vie un beau jour de 1787. Il a 55 ans, elle, 30 de moins. S'étant vite lassée de son mari, elle vit seule, obligée, pour tenir son train, d'en appeler à la générosité de ceux qu'il aime. Par chance, ils sont légion, car les charmes de la jeune dame sont qualifiés d'incendiaire par tous les contemporains. On ne sait l'occasion de leur rencontre, la certitude est qu'un feu s'est allumé. « Maintenant, belle impérieuse, que voulez-vous faire de moi ? » écrit-il. « Premièrement, je ne veux plus vous voir. Soit que vous brûliez ou non, vous mettez le feu partout. Hier, en vous quittant, il me semblait sur moi qu'il eût plus de la braise. Mes pauvres lèvres, ah Dieu, pour avoir seulement essayé de presser les vôtres, étaient ardentes, comme si elles étaient dévorées du feu de la fièvre. Qu'avais-je besoin de voir votre jambe attachée au genou le mieux fait, ce pied, si petit, si furtif qu'on le mettrait dans sa bouche? Non, non, je ne veux plus vous voir, je ne veux plus que votre haleine mette le feu dans ma poitrine. Je suis heureux, froid, tranquille, que m'offririez-vous? Des plaisirs? Je n'en veux plus de cette espèce, j'ai renoncé à votre sexe. Il ne sera plus rien pour moi. Plus de séances bec à bec, je deviendrai fou. Tous mes plans de sagesse se briseraient contre tant d'attraits. Moi, suspendu comme une mouche à tous ces filets d'arachnée, je laisserai sucer, dessécher ma substance, égarer ma raison, soulever mes sens presque éteints, et cette femme en miniature, avec ses idées de 20 pieds, ferait sa poupée de mon cœur. Non, non, arrêtons-nous, il en est temps. Mandez-moi ce que vous pensez, sentez-vous l'exiger de moi. Je suis votre conseil, votre respectueux admirateur, pas encore votre ami. Dieu me préserve de vos charmes. Ces protestations ne trompent personne. Et surtout pas la fine mouche qu'est Amélie. Elle vient de ferrer un gros poisson, célèbre et riche à millions, lequel va se consumer d'amour. Installant d'abord dans un logis particulier l'impécunieuse comtesse, puis l'invitant à venir habiter chez lui au domicile conjugal. Pauvre épouse, pauvre Thérèse, pour certaines femmes, le mariage est un long repas de couleuvre. Les années passent sans que s'apaise la fièvre de Pierre-Augustin. Elle s'aggraverait plutôt, car peu à peu, l'écart des âges se fait gouffre. Dans sa tête, l'homme se croit toujours jeune, mais le corps ne suit plus. Bientôt, l'illusion se déchire. Amélie vient de prendre un amant de 10 ans plus jeune. Précisons, de 10 ans plus jeune qu'elle. Et Amélie en est folle. À moins que toi qui m'écris foutu bête, mettant à m'inviter cette simplicité charmante, ne m'écrive naïvement. Viens me dire que tu m'aimes, viens. Que nos langues se foutent après, avec le charme d'autrefois. Viens langoter le con, le cul de ton ami, viens puiser une goutte de foutre au con de la bégueule qui te dit foutu bête. Et si je suis bien contente de toi, je te rendrai avec amour le plaisir que tu m'auras fait. Si tu ne m'écris pas cela ce soir, avant de te coucher, sauf à me le faire tenir demain matin à mon réveil, tu ne verras pas ton ami qui, forcé de sortir à 8h15, ne pourra peut-être pas te rapporter ta douce lettre avant 11h30 ou midi, mais si je la reçois ou ce soir ou demain matin, je brusque tout pour aller remonter ton courage et le mien par notre eucharistie d'amour. Entre deux douleurs, on finit par choisir celle de ne plus se voir. J'entends déjà l'exclamation lasse de certains puritains. Pourquoi faire un tel fromage d'une banale histoire de cul? Figurez-vous, braves gens, que les corps, quand ils se plaisent vraiment, ont un langage qui raconte la vérité. À la vie, à la mort, on connaît les serments prononcés au début d'un amour. Ce serment-là fut tenu dans des circonstances que je vous raconterai. Amélie sauva Pierre-Augustin de la décapitation.
C'était Beaumarchais, un aventurier de la liberté, par Éric Orsenna. À la technique, Alain Joubert. Réalisation, Rafik Zénine.